Oh bah dites donc, Fatoumata Diawara, ça a été rapide comme fin. Amélie Perrier est là et elle est sous les radars.
France Inter.
Good evening and welcome.
Irresponsible Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
On va garder notre sérieux, Amélie, c'est mercredi, on commence avec un film.
Et on va quand même un peu jouer, je vous passe la bande-annonce, il faut que vous reconnaissiez.
Allez-y. Ah bah il l'a dit.
Ah bah il l'a dit.
Ah bah, The Beach. C'est
la plage avec Leonardo DiCaprio, Virginie Ledoyen, Guillaume Canet. C'était tourné, vous en souvenez, dans un paysage paradisiaque en Thaïlande. Cette plage est désormais fermée. Après le succès du film, ces eaux turquoises ont été prises d'assaut par les touristes et les dégâts sont bien pires que prévu. La plage de Koh Phi Phi devait rouvrir aujourd'hui, mais les autorités prolongent la fermeture. Dernièrement, Maya Bay accueillait près de 5000 visiteurs par jour, de plus en plus de Chinois, dont la plupart ne restaient que quelques dizaines de minutes avant de repartir sur des hors-bords. Conséquence, la pollution, des moteurs, les récifs coralliens massacrés. Une ONG annonce au moins 4 ans pour réhabiliter la plage. Ouais, 4 ans. Et c'est pas un cas isolé en Asie. Aux Philippines, là, il n'y a pas eu de tournage, mais Boracay, l'île la plus courue de l'archipel, est interdite aux touristes jusqu'à la fin du mois. Elle était devenue une fosse septique, pour reprendre les mots du toujours très cru président Duterte. D'ailleurs, on apprend aujourd'hui qu'à sa réouverture, le nombre de touristes sera limité. L'alcool y sera interdit.
Okay.
Je vous passe un autre film.
Allez-y.
When there is crime in society, there is no justice.
J'adore. Vous connaissez ?
Ouais, non, alors je l'ai pas vu, je le vois marqué, mais j'adore cette voix. Sylvester Stallone.
Judge Dredd, c'était en 95, une adaptation d'une BD en fait. Et c'est
en fait,
bien...
si je l'ai vu le film, mais on n'a pas le droit de le dire.
Vous voulez pas l'avouer.
Mais non. Bah,
ouais, cachez-vous, oui.
Oui.
Et c'est bien du créateur de la bande dessinée dont je vais vous parler ce soir, un artiste espagnol, Carlos Esquerra. Il est mort avant-hier. Et aujourd'hui, le Guardian lui rend un hommage un peu spécial, car si Esquerra a commencé à dessiner à Barcelone, il a ensuite déménagé au Royaume-Uni pour travailler pour la revue 2000 AD, où il a publié les aventures donc de Judge Dredd. Et Jenny de son œuvre, salue aujourd'hui un éditorialiste anglais, repose en partie sur la rencontre entre l'Espagne fasciste et le punk britannique. D'ailleurs, Esquerra lui-même le reconnaissait, il avait vécu dans l'Espagne de Franco, mais aussi dans l'Angleterre de Margaret Thatcher. Alors, il y a le motif de l'aigle, il y a son casque, ça rappelle les symboles du fascisme, il y a les fermetures éclairs, les chaînes, les genouillères, ça c'est plutôt du côté du punk. Et le journaliste du Guardian d'avancer que des milliers de parents ont acheté à leurs enfants des paraboles transgressives contre l'autorité. Une satire teintée de punk sans le savoir, totalement à l'opposé donc des comics américains. Esquerra a instillé un instinct rebelle chez les jeunes lecteurs. En revanche, une revanche, écrit l'éditorialiste, sur l'Espagne de Franco et l'Angleterre de Thatcher.
Allez, la mondialisation des cultures, c'est aussi l'arrivée en Afrique du commerce en ligne.
Une conférence sur le sujet s'est tenue à Nairobi au Kenya, organisée par l'Union africaine. Le commerce en ligne, estimé à 8 milliards de dollars en 2014 en Afrique, pourrait atteindre 75 milliards de dollars dans 7 ans, selon le cabinet McKinsey. Mais parmi les défis, les infrastructures, la logistique transfrontalière et à l'intérieur de chaque pays, des géants sentent le potentiel et commencent à investir, comme nous le dit ce consultant Sid Boubaker.
Vu la montée de la clientèle, eBay, Amazon place 10 millions, 30 millions d'euros en partenariat avec Jumia, par exemple, pour mettre en place des plateformes de distribution. Ces plateformes de distribution vont générer des emplois et vont donc booster les ventes et, à mon avis, vont aussi réduire les coûts des produits.
L'un des enjeux, c'est de décloisonner un marché au potentiel immense, mais aussi de protéger les données en ligne des clients. Là aussi, le continent a encore beaucoup à faire.
Allez, on a commencé avec du cinéma, on termine en musique.
Mais amor Roberto.
Vous connaissez là ?
Pas du tout.
On fait pas de blind test là. Non, bah c'est nouveau. C'est Brock Hampton.
Mais quelle méchanceté !
C'est un groupe de hip-hop américain qui est né au Texas. Son album qu'on entend, Iridance, vient de se classer numéro 1 au classement des ventes Billboard. Plus de 100 000 disques écoulés la première semaine. Énorme carton. Brock Hampton fait mieux qu'Eminem. Les spécialistes parlent du groupe le plus excitant de la scène hip-hop depuis le Wu-Tang Clan. Et ce qui est aussi remarquable, pourquoi je vous en parle
pourquoi
de ce
oui,
groupe
pourquoi
eh bien, c'est parce que pour la première fois, l'un de ses membres affiche ouvertement son homosexualité. Il s'appelle Kevin Abstract. Lui ne veut pas qu'on le définisse seulement par son orientation sexuelle. Il veut juste normaliser le fait qu'il est gay dans un espace, il le reconnaît traditionnellement homophobe. Le hip-hop a déjà connu des artistes homo, hein, Frank Ocean, Taylor Bennett. Jay-Z a aussi parlé de la sexualité de sa mère récemment. Mais cet album en tête des ventes, c'est quand même un signal très fort.